sait-on ce qui se cache derrière cette petite phrase que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée ? Quelle heure est-il ?
Au quatrième top, il sera exactement...
midi et des poussières. Midi et des poussières.
Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Barthas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus une heure.
Bonjour à toutes et à tous, je m'excuse par avance car j'ai un petit peu perdu ma voix, mais vous êtes bien sur Radio Barthas, sur les ondes à proximité via le 107 de la bande FM ou sur les internets radiobarthas.net si vous nous écoutez d'un peu plus loin, du Québec par exemple. Je ne sais pas si des gens nous écoutent depuis le Québec, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que Radio Barthas est elle à l'écoute du Québec toute cette semaine pendant laquelle se déploie à Florac le festival dont vous avez déjà dû entendre un tout petit peu parler, le festival Vue du Québec. Et il se déploie tant et si bien que je vais carrément me faire remplacer, aujourd'hui ça tombe bien, j'ai plus de voix, par un confrère québécois, Daniel Racine. Salut Daniel.
Bonjour, bonjour Raphaël.
Bonjour. Alors toi, tu es l'animateur du festival Vue du Québec depuis déjà fort longtemps.
11 ans.
Depuis déjà. 11 ans. Donc tu es presque autant floracois que québécois.
Oui. Je vais peut-être me présenter à la mairie un jour. Ça fait longtemps que j'en parle aux élus locaux.
Là, t'arrives un petit peu tard, mais il faudra patienter encore quelques années. Et donc, quand tu n'es pas à Florac pour animer le festival Vue du Québec, mais quand tu es chez toi à Montréal, tu es critique de cinéma et programmateur de festival. Et tu es venu accompagné d'une prestigieuse invitée que je suis honorée d'accueillir, Micheline Langteau. Bonjour.
Bonjour, Raphaël.
Alors Daniel, donc tu m'as dit quand on s'est rencontrés que tu avais très envie de venir en direct sur Radio Barthas car la radio te manque, tu as aussi été animateur, tu as fait
c'est
de
vrai,
la radio.
C'est vrai.
Et donc je suis ravie d'autant que j'ai plus de voix de te laisser jouer ce rôle de nouveau, prendre un petit peu ma place pour te laisser présenter aux auditrices, aux auditeurs de Radio Barthas, Micheline Langteau. Si vous êtes d'accord Micheline, que Daniel...
Ben oui, certainement, volontiers.
Ben, je vais commencer déjà en disant que Micheline Langteau, c'est un trésor national.
Oh,
on est
Dieu.
Vraiment choyés de l'avoir cette année au festival. Déjà plus de 6 décennies quand même comme actrice, 11 films aussi comme réalisatrice. Et les gens de Florac qui sont habitués de venir au festival ont vu de nombreuses fois Micheline à l'écran sans trop le savoir, parce qu'on a présenté entre autres Arsenault et fils de Raphaël Ouellette, Les Affamés de Robin Aubert. L'année passée, on avait Frontières de Guy Edouin, on avait... mon Dieu, j'oublie le titre.
De Martin Laroche, Le Rire, peut-être, non?
Non, celui-là, on ne l'a pas présenté. Ah, okay. Non, celui de l'année passée du duo homme-femme là, avec les extraterrestres, j'oublie le titre.
Ah, vous n'êtes pas seul.
Vous n'êtes pas seul, merci. Donc, on a vu Micheline souvent sur des écrans à Florac. Et là, on va la voir 4 fois. 2 fois comme réalisatrice, puis je pense 3 ou 4 fois comme actrice aussi, parce que tu joues dans le film de Brigitte.
Oui,
aussi.
De Brigitte Poupard.
Oui.
De Brigitte Poupard, oui.
Vont les âmes. Donc, vraiment, je me sens honoré, moi aussi, d'être en présence de Micheline toute la semaine. Puis, non, c'était comme un choix évident cette année de lui rendre hommage. Fait que bienvenue, Micheline.
Ben, merci beaucoup.
Et bienvenue.
Je suis très honoré et flatté d'être dans cette magnifique région, puis de participer au festival qui est... dans sa 17e, 18e année?
17e,
oui. 17e édition.
Ouais.
Et donc, Micheline, en plus d'être actrice, réalisatrice, scénariste, productrice aussi, monteuse, vous êtes aussi l'affiche, d'ailleurs, de cette 17e édition de Vue du Québec. Alors, est-ce que vous pouvez nous la décrire? Elle est très, très belle, cette affiche. Si, voilà, Daniel, est-ce que tu peux lui montrer donc, le devant du programme?
Oui.
Micheline, décrivez-nous.
C'est une scène de La vraie nature de Bernadette, qui est un peu le film emblématique de ma carrière d'actrice. C'est une scène improvisée, d'ailleurs.
Ah oui?
Oui.
OK.
Je me rappelle plus exactement le contexte, mais on était allé tourner autre chose. Et puis, c'est des morceaux, des graines de pissenlit qui se dispersaient.
Dans puis, le ciel? Dans le ciel autour de
puis,
nous?
Puis, Gilles Card a dit, faites du sémaphore. Ça fait que finalement, ça s'est improvisé, puis ça a donné une des scènes les plus magnifiques du film La vraie nature de Bernadette.
Donc ça, c'était votre premier film en tant qu'actrice, que comédienne. Oui. C'est un film de Gilles Carle qui est sorti en 1972. Donc c'est un peu le flower power. On le sent d'ailleurs dans cette affiche-là, un peu l'esprit hippie de ces années 70. Et donc ça, ce film, ça a été un immense succès pour vous au Québec, bien sûr, mais aussi en France. Daniel, toi qui est critique de cinéma, est-ce que tu peux nous dire un peu quel impact il a eu, ce film?
Ben, c'est un film auquel on revient constamment. C'est un film, puis Gilles Carle, dans sa carrière, c'est arrivé souvent qu'il prédisait un peu ce qui allait se passer au niveau de la société québécoise. C'est un des plus beaux personnages féminins de l'histoire du cinéma québécois, selon moi. Micheline, tu étais magnifique.
Merci.
Tu étais vraiment, vraiment magnifique. Tout pour séduire. Déjà, on fait lire son talent, son charisme, à quel point tu étais capable d'habiter le territoire, autant narratif qu'à l'écran. Et non, franchement, c'est un film auquel on revient parce que c'est un peu un idéal auquel on voudrait revenir avec tous les problèmes contemporains qu'on a. Il y a une certaine nostalgie de cette époque-là qu'on pense qu'on ne pourra plus jamais retrouver. C'est ça qui est triste un peu en voyant ce genre de film-là.
Oui, il y a une grande innocence dans ce film-là, une grande candeur, je pense, et dans le personnage et dans l'histoire. Et moi, à ma grande stupéfaction, je l'ai présenté plusieurs fois depuis. C'est un film qui n'a pas pris une ride.
Exact.
Même avec la démonstration des agriculteurs sur à la fin.
Oui.
Ils font une protestation que les Français
oui.
On
vont
reconnu.
Reconnaître. Oui. Et c'est vraiment un film qui n'a pas vieilli du tout, ni par sa facture, ni par son contenu.
Son propos, on peut rappeler rapidement, donc c'est l'histoire de cette femme, Bernadette, qui est mariée à un avocat, qui vit à la ville et qui décide de tout quitter et de partir seule avec son fils pour s'installer à la campagne et être plus proche de la nature. Donc c'est un geste à la fois féministe et à la fois aussi écologiste.
Oui, absolument. Et c'est, à l'époque, c'était beaucoup dans les mœurs, le retour à la nature. Mais encore une fois, je constate aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui embrassent cet idéal-là, qui veulent faire un retour à la nature. Et c'est sûr qu'avec tout ce qui est sorti sur l'écologie et tout, ça en fait vraiment un retour à la nature d'actualité. Alors, c'est un film prophétique pour moi, quelque part, visionnaire. Et puis c'est traité à la Gilles Carle comme une fable, un peu. Donc, il y a quelque chose qui ne vieillit pas du tout dans la facture du film, dans l'imagerie, dans tout ce qui est... et à l'époque, c'était mon premier rôle et on s'était gâté en tournant en Panavision. Je pense que c'est un des premiers films qui a été fait en Panavision en 2.35.
Ah, mais c'est magnifique.
C'est un type de pellicule pour les non-initiés. C'est
oui,
un type
c'est
de
ça.
Pellicule.
Ah oui, puis un film en pellicule, je veux dire, c'est tellement mieux que ce qu'on fait en numérique aujourd'hui. Juste rappeler aux auditeurs et auditrices que le film joue demain. Demain à 14h à la Genette Verte. C'est vraiment un des coups de cœur du festival, à ne pas manquer, un de nos grands classiques. Et comme tu l'as si bien décrit, Micheline, c'est toutes des valeurs qui sont fortes ici dans les Cévennes. Donc, c'est un film qui va intéresser tout le monde qui habite dans les Cévennes. Ce retour à la nature, ici, la nature, on l'a derrière nous, est toujours proche. Donc, vous allez adorer ce film-là. Je vous conseille fortement de venir le voir.
Et c'est beau de voir, Micheline, à quel point vous aimez encore ce film, parce que parfois, quand on a une longue carrière, parfois nos premières œuvres, on peut en être soit lassé, soit pas forcément les renier, mais voilà, alors que là, on sent encore un grand attachement, alors qu'après ce film-là, il y en a eu tant d'autres. Vous avez joué, j'ai compté sur Wikipédia à la main, parce que j'ai pas trouvé le chiffre, au moins en tant qu'actrice dans une cinquantaine de films de cinéma, sans compter toutes les productions pour la télévision. Et en parallèle, vous avez aussi mené votre carrière de réalisatrice.
Oui.
Donc et vous avez aussi été, on peut le dire comme ça, même si moi j'aime pas forcément toujours ramener le fait que ce soit une femme cinéaste à ces questions de féminisme, parce que voilà, mais bon, il faut quand même le dire que vous étiez une des pionnières en tant que femme réalisatrice au Québec. C'est quand même important de le dire.
J'ai fait la charrue, comme on dit chez nous. J'ai été une des premières à foncer. On n'était pas seul. J'ai eu des femmes qui m'ont précédée, qui ont ouvert la porte dans le programme de l'Office national du film en tant que femme, notamment.
Ouais.
Et il y a eu une cinéaste qui a fait le premier film de fiction avant moi, qui s'appelle Mireille Dansereau, En 71, je crois qu'elle avait fait ce film-là. Et donc, je marche sur des traces qui ont été faites avant moi.
Tu les as élargies.
Je les ai un petit peu avancées, oui, c'est ça. Je les ai fait progresser.
Et alors, quelles ont été, en tant que réalisatrice, les thèmes, en tout cas, les choses dont vous avez voulu parler, que vous avez souhaité raconter à travers votre œuvre cinématographique? Vous avez 11 films derrière vous. Je crois que votre dernière réalisation, vous aviez annoncé que ce serait la dernière.
C'est la dernière, oui.
Donc, ça permet d'avoir un recul. Comment est-ce que vous pourriez parler de votre travail à celles et ceux qui nous écoutent, qui ne vous connaissent pas?
Je suis pas la meilleure placée pour parler de mes films parce que je les ai fait, je dirais pas en toute inconscience, mais sur l'impulsion du sujet qui m'arrivait. J'ai toujours choisi des sujets difficiles. Je pense que c'est dans ma nature. Une voyante m'avait dit que quand j'avais 18 ans, que je chercherais toujours le chemin le plus difficile. Donc, fait. Et ce que je remarque, en fait, ce que moi, je pense que j'ai fait, c'est une recherche éthique, autant personnelle que sociale, entre guillemets. J'ai traité de l'itinérance, j'ai traité de la dépression des femmes, avec des enfants qui essaient de se suicider avec des enfants. C'est pas des sujets faciles. Puis je pense que les gens ont pas saisi ce qu'il y avait de critique sociale dans le film parce qu'ils se sont arrêtés au fait divers. Et avec ce film-là, je voulais justement dépasser le fait divers et parler de la détresse des femmes dans un monde où il n'y a plus de ressources, il n'y a plus de réseau, il n'y a plus de voisinage, il n'y a plus de soutien, vraiment, parce que moi, je l'ai expérimenté. J'ai eu 2 enfants, puis j'ai galéré à l'époque. C'est un petit peu mieux maintenant, mais pas beaucoup. Et donc, c'est ça. Mon dernier film était à saveur, je dirais, philosophique, parce qu'il était basé sur l'éthique de Spinoza. Qui est un philosophe qui m'a poursuivi toute ma vie. Je n'ai aucune idée pourquoi. Je n'étais pas une experte ni en philosophie ni en Spinoza, mais c'est un philosophe que j'avais connu dans mes études de classique. Et cette recherche d'éthique-là, parce qu'au Québec, on a balancé la religion assez tôt, dans les années 60, et on a aussi balancé avec tout ce qui était valeurs morales, religieuses. Et j'appartiens à cette génération-là qui s'est retrouvée tout à coup devant un vide abyssal de valeurs morales. Et j'ai essayé de m'en reconstruire personnellement, mais aussi en essayant d'impliquer ma société en disant qu'est-ce que c'est qu'être humain, qu'est-ce que c'est que c'est quoi qui nous définit comme être humain, qu'est-ce que c'est que prendre soin d'un itinérant, par exemple, qu'est-ce que ça implique. Qu'est-ce que c'est que de laisser les femmes se débattre avec des enfants puis un travail dans une société qui offre aucun soutien? Donc, c'est un petit peu ça qui est le fil conducteur dans mes films, je dirais. Vraiment une recherche d'éthique, d'humanité.
Et je me permettrais d'ajouter que c'est là l'importance des réalisatrices parce que c'est des chemins que les hommes fréquentaient pas. Donc, tous les questionnements que tu as eus, ils n'étaient pas abordés par des hommes. Puis moi, je me bats énormément pour le cinéma au féminin parce que comme critique, c'est ce qu'il y a de plus excitant en ce moment parce que c'est tous des nouveaux territoires narratifs qui sont défrichés, que Micheline a commencé à faire. Et c'est des questions, c'est ça, en tant qu'homme, des fois, on est moins sensible peut-être à certains aspects. Puis il y a tout le vécu aussi qui fait qu'on peut offrir des regards complètement neufs. Donc, l'importance de son œuvre à ce niveau-là est assez remarquable au niveau sociétal, mais au niveau féministe, au niveau humaniste de l'ensemble de son œuvre.
Merci.
Et donc, depuis votre première réalisation, c'était un film d'animation, A Talk and Gesture, en 1975.
Oui, ça c'était une commande. Je renie pas le film, mais disons que c'est pas quelque chose qui m'importe.
Je voulais juste le prendre comme date d'anniversaire parce que donc ça fait 51 ans, donc ouais. Ça fait quand même plusieurs décennies. Vous avez traversé l'histoire, une partie de l'histoire du cinéma québécois, et aussi vous enseignez à des jeunes étudiants et étudiantes en école de cinéma. Alors, quel constat faites-vous? Et après, je te retournerai la question à Daniel sur l'évolution justement du cinéma québécois et des thèmes qui y sont traités, du travail des réalisatrices, des réalisateurs d'aujourd'hui, et peut-être aussi de la place des femmes réalisatrices dans le paysage cinématographique québécois aujourd'hui?
Ce que j'ai constaté, d'abord, je dois dire que dans mes 36 ans de professorat, d'instruction, j'ai rencontré beaucoup de talents. Beaucoup de talents. Et à chaque fois, ça me crevait le cœur de penser qu'on est dans un cinéma d'État et qu'on n'a pas vraiment... J'avais un collègue qui disait qu'on faisait un cinéma de vitrine. Et malheureusement, oui, parce que ces films-là sont choisis par des fonctionnaires. Les films qui se font sont choisis par des fonctionnaires. Avec ce que ça implique d'ingérence, avec ce que ça implique de censure, parce qu'on pense toujours qu'au Québec, on n'est pas censuré, mais moi, je peux vous dire qu'il y a effectivement la plus insidieuse des censures, celle des fonctionnaires. Et je suis contente de voir que malgré tout, il y a des films importants qui se sont faits, des films très significatifs. Qui ont échappé, oui. Je dirais, à l'étroitesse des fonctionnaires et qui ont quand même voyagé beaucoup à travers le monde. Et ça, bon, c'était pas le cas quand moi j'ai débuté. J'ai eu la grande chance avec mon deuxième film de décrocher un lion d'argent au Festival de Venise. Mais j'ai perdu ma fenêtre à l'international parce que les fonctionnaires ont dit non à tous mes projets ensuite. Mmh. Ça m'a pris presque 6 ans avant de réussir à faire un autre film.
Parce que les financements ne vous étaient pas accordés?
Non, je n'obtenais pas de financement pour mes projets qui tombaient à l'eau. Et c'est un des grands problèmes dans le cinéma québécois, c'est que un jeune auteur qui tout à coup a une percée à l'international, les fonctionnaires ne fonctionnent pas avec la continuité, avec l'œuvre. Le cinéma français construit des œuvres.
Oui.
Le cinéma québécois cherche des hits. Alors, n'importe qui au Québec peut faire un premier film presque,
oui.
Mais le deuxième est terriblement difficile à faire. Et après ça, il y en a beaucoup qui sombrent dans l'oubli parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est en place ou que les fonctionnaires regardent ailleurs ou cherchent ailleurs. Et ça, c'est un des grands problèmes. Il y a très peu de... Moi, j'ai réussi à construire une œuvre, mais je ne vous dirai pas ce que ça m'a coûté.
Oui.
En termes de concessions, de compromis, j'ai travaillé avec des budgets ridicules. Tous mes films sont en bas d'un million ou presque.
Ah, mon Dieu.
Dollars, pas euros.
Oui.
Ah. Le seul film pour lequel j'ai eu un peu de sous, puis encore, le fonctionnaire m'avait limité, c'était mon dernier film.
Mm.
Et c'est une concession que j'ai faite pour être capable de continuer, parce qu'on considérait que mon cinéma n'était pas populaire du tout, que je ne faisais pas de hit, j'avais pas de succès de box-office, ce qui est vrai.
Donc, ils comptabilisent aux entrées, c'est ça? Ils regardent le nombre d'entrées que votre dernier film a fait.
On ne sait pas exactement à quoi ils comptabilisent.
Il y a beaucoup de facteurs.
C'est très aléatoire.
C'est ça.
Et ça, c'est extrêmement frustrant quand on essaie de construire une œuvre parce qu'on ne sait jamais pourquoi les films sont pris, pourquoi les films sont jetés.
C'est au bon vouloir, donc, de ces fonctionnaires, comme vous disiez.
C'est vraiment au bon vouloir des fonctionnaires, et c'est un truc que moi j'ai dénoncé tout le temps, au cours de mes 50 années de travail, et ça ne change pas.
Mais je voulais rebondir sur... tu as parlé tantôt de Martin Laroche,
ouais.
Parce qu'il a joué dans le dernier film de Martin Laroche, Le Rire.
Ouais.
Martin Laroche, on l'a déjà reçu ici à Florent, qu'on avait présenté ses deux premiers longs-métrages. Et depuis, il a quitté le métier parce qu'il accumulait les refus et il s'est complètement découragé. Puis ça a été un grand con. On en a beaucoup parlé dans les médias parce qu'il ne s'est pas gêné de le dire. Il était tanné du système. C'est un système qui use, énormément.
Seul, hein? Il n'est pas le seul.
Ah non, il y en a plein d'autres qui ont quitté. Ben oui, je sais, c'est...
Qui quitte, mais qui sont forcés de quitter pour gagner leur vie ailleurs.
C'est ça,
là, tu sais.
C'est ça. Puis le coût de la vie augmente terriblement. On ne peut pas travailler 10 ans sur un projet. C'est pas viable.
Moi, si je n'avais pas travaillé comme actrice en même temps, je n'aurais jamais... Parce que j'ai mis dans mes films, j'ai investi mon propre argent, j'ai investi au-dessus de 300 000 $ dans mes films.
Wow!
150 000 euros, c'est énorme.
Ouais.
Mais pourtant, nous, depuis la France, on a le sentiment que justement, le cinéma québécois est très vivant, très actif. On a des films qui nous arrivent ici.
C'est pas une contradiction, c'est parce qu'il y a énormément de talent.
Mm-hmm.
Le problème, c'est pas le talent à l'origine, c'est pas la création, c'est la continuité, c'est le soutien aux œuvres.
C'est ce qu'on fait avec ce talent-là. Ouais.
C'est ce qu'on fait, c'est ce que les fonctionnaires font avec ces talents-là.
Ouais.
C'est-à-dire que, dès qu'un quelqu'un a un peu de succès à l'étranger, c'est sûr qu'il y a une place privilégiée dans le parcours des fonctionnaires. Là. Mais autrement, c'est la galère pour essayer de construire une œuvre d'un film à l'autre. Des fois, moi, j'ai 4 ans entre mes films. Mm. Entre beaucoup de mes films, j'ai 4 ans, j'ai 5 ans.
Non, maintenant, ça peut être 10, 12 ans. Frédéric Exactement. Pelletier va sortir son 2e long. Puis ça fait 12 ans que Diego Star a été tourné. Ouais, ouais. Puis pourtant, il a essayé là, son projet. Il a réussi à l'amener à bout, mais vraiment, je ne sais pas ce qu'il a payé comme prix. Puis lui, il est professeur aussi. Ouais. Fait que c'est comme ça qu'il a pu s'en sauver.
C'est ça.
Mais c'est des parcours du combattant. Moi, on pourrait en parler longtemps.
Mes étudiants qui me demandaient ce que ça prenait pour faire des films au Québec, je disais, soyez un pitbull.
Oui.
Mordez la jambe qui vous nourrit. Ne lâchez pas. Continuez jusqu'à la mort.
Sanguinaire, Micheline Langteau dans les studios de Radio Vertas. En tout cas, oui, c'est passionnant. On n'a pas idée du tout de ça. Ça mériterait un débat peut-être pour la prochaine édition.
Oui, on pourrait en parler des heures et des heures.
Québec, on pourrait reparler de ça. Mais alors, bon, en tout cas, on espère quand même que ça pourra évoluer. Et Micheline, je voulais vous demander, parce que bon, là, on est entre nous sur Radio Bartas. J'imagine que sur Radio-Canada, vous ne pourriez pas forcément le dire. Mais
je le dis.
C'est qui votre cinéaste québécois chouchou, votre dauphin, votre dauphine, si vous pouvez nous
Ah, j'en ai trop. Je ne veux pas en nommer un, c'est faire injure à tous les autres.
Allez, juste ça.
Non, il y en a beaucoup que j'aime. Stéphane Lafleur, entre autres, dont j'aime beaucoup les films. Guy Edouin, il y en a beaucoup. Tous ceux avec qui j'ai travaillé, c'est mes chouchous, en fait. Mais il y en a beaucoup d'autres, et pas nécessairement les plus connus, parce que je ne vais pas nécessairement dans le mainstream. J'aime
beaucoup. Il y a, j'oublie son nom, mais celui qui réalisait Phoenix.
Jonathan Beaulieu-Cyr,
qui présente cette année.
Oui, qui est un de mes anciens étudiants, que j'ai beaucoup aimé, qui a mis 12 ans avant de faire son film.
Oui.
Et vrai, il y en a trop.
Trop de talents, comme vous disiez.
Oui, ben, non seulement des talents, mais des gens qui font avancer la narration, des gens qui racontent différemment. Moi, j'ai toujours essayé de raconter différemment, c'est dans ma nature. Je n'aime pas le cinéma formaté, j'ai horreur du cinéma formaté, quelle que soit son origine. Donc, quand quelqu'un arrive avec quelque chose de neuf ou de nouveau, tout de suite, ça me séduit, c'est Robin Aubert, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Quelqu'un qui trouve des nouvelles façons après qu'on ait tout fait au cinéma, quelqu'un qui arrive tout à coup avec des nouvelles façons de raconter une histoire, moi, ça me séduit tout de suite.
Et votre coup de cœur, alors, à l'un et à l'autre de la programmation de cette 17e
édition? Ah oui, ben là, c'est très difficile de me demander ça parce que tous les invités s'en viennent ou sont presque présents, mais je vais le faire. Moi, mon gros coup de cœur, mon meilleur film québécois de l'année passée, on va vous le présenter cette semaine, laissez-moi voir quand est-ce qu'il joue, c'est jeudi le 16 avril à 20h30, c'est « La mort n'existe pas », le long-métrage d'animation de Félix Dufour-Lapeyrière. Puis ça me permet de parler d'un truc, c'est que pour revenir au tout début de notre discussion avec Bernadette, il se passe de quoi en ce moment dans le cinéma de québécois de très intéressant, avec entre autres Amour Apocalypse d'Anne Aymon. Il y a eu le film aussi Le Temps de François Delisle l'année passée. C'est qu'il y a plusieurs cinéastes maintenant qui tournent puis qui doivent avoir une bonne raison de tourner. Anne Aymon, depuis un long bout de temps, elle se cherchait comme réalisatrice, c'est elle qui m'a dit ça. Et avec Amour Apocalypse, un film sur l'éco-anxiété, elle sentait qu'elle pouvait aider les gens. Et de plus en plus, il y a des cinéastes qui cherchent soit à réveiller le monde qui dorme au gaz sur leur téléphone, soit à essayer de faire changer la société. Donc, il y a vraiment quelque chose de très, très beau. François Delisle, il a dit qu'il ne ferait plus de films s'ils n'ont pas une bonne portée sociale puis qu'ils ne peuvent pas faire avancer les choses.
Le temps est magnifique.
Ah, c'est un magnifique film. Et François est déjà venu, Anne Aymon est déjà venu aussi. Fait que je trouve ça beau, ce qui se passe. Et moi, ça, c'est le cinéma qui me parle. Où est-ce qu'on ne fait pas juste un film pour mettre du contenu en ligne éventuellement sur les plateformes, mais bien des films qui sont faits pour les salles de cinéma et en plus qui ont une portée sociale, qui ont une réflexion sur le maintenant. Puis on va espérer que ça va bien vieillir, puis surtout aussi que ça va faire avancer les choses. Et selon moi, c'est comme ça qu'on construit une cinématographie nationale. Puis au Québec, en tout cas, on sent qu'il y a un retour à beaucoup ce qui se passait dans les années 70, parce que la période des années 70 au Québec, c'était génial côté cinématographique. Tous les films amenaient une nouvelle brique dans la maison de notre cinéma. Puis il se passait de quoi? On bousculait les choses. On n'avait pas peur de dire ce qu'on pensait. Et il y a un retour progressif à ça. C'est pas partout, mais moi, je sens qu'il y a de quoi qui bouge en ce moment, puis ça me rassure sur l'avenir.
Ça me rassure en autant que les fonctionnaires suivent.
Oui, bien, c'est ça. Ouais. On revient toujours à eux.
Oui, hélas.
Donc, on a eu ton coup de cœur, Daniel. Tu peux redire le titre du film?
Oui, La mort n'existe pas, de Félix Dufour-Lapeyrière, mais on ne le dira pas aux invités parce que je ne veux pas blesser personne. Mais de toute façon, Guillaume et moi, c'est des films qu'on aime, qu'on met dans notre programmation.
Non, mais qu'on n'aime pas. Donner un coup de cœur, les gens sont toujours un peu réticents, mais ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les autres. Exact. Ça veut dire que c'en est un qui nous a particulièrement touché.
Quand tu parles à un enfant, il va dire « Ah oui, mets-moi. » Ils sont très sensibles, hein, les cinéastes.
Oui. Il ne
faut pas l'oublier.
Et vous, Micheline, est-ce que vous avez un coup de cœur ou un film que vous avez envie de découvrir ou de revoir qui est programmé cette année?
Moi, j'ai beaucoup aimé Phoenix de Jonathan Beaulieu-Cy, pour toutes sortes de raisons, pas seulement parce que c'est mon étudiant, mais parce que c'est un projet qu'il avait présenté dans un atelier que je dirigeais. Puis c'est un sujet dont on ne parle absolument pas au Québec. Son père était militaire et son père avait fait deux tours en Afghanistan. Je crois qu'il était sévèrement post-traumatisé. Et Jonathan avait amené ce sujet-là d'une façon très, très, très sensible. Puis j'avais dit à l'époque, Jonathan, si tu fais pas ton film, je vais le faire à ta place. Parce que le sujet était fantastique. Et il débutait comme étudiant. Et il a mis vraiment presque 12 ans avant de faire le film. Mais je suis très, très contente qu'il ait fait ce film-là parce que c'est vraiment un sujet dont on parle pas.
C'est vrai.
Et c'est un sujet important. Les Québécois sont antimilitaristes l'ont toujours été depuis très, très, très longtemps. Et on ne parle pas de ceux qui ont subi les horreurs du combat ou de la lutte armée, parce qu'il n'y en a pas beaucoup et que c'est quelque chose qu'on... Je ne dirais pas qu'on méprise au Québec, mais contre lequel on a un peu une dent, étant donné qu'on est pacifiste et antimilitariste depuis tellement longtemps. Et même, je dirais, depuis la conquête. Et donc, c'est un beau film, c'est un très beau film, très sensible, très humain. J'ai beaucoup aimé ce film-là.
Ben merci. Phoenix, merci pour vos conseils, pour votre partage et merci beaucoup à tous les deux d'être passés par les studios de Radio Bartas pour inaugurer donc cette semaine dédiée au cinéma québécois à Florac. Et moi, je rappelle donc que la soirée d'ouverture, et ben c'est ce soir à 20h à la Jeunette Verte avec la projection d'un film très attendu aussi, Capitaine, de William Mazzolini-Valin, qui est le premier long métrage où la langue inoue est majoritaire, et la projection sera en présence du réalisateur et de sa productrice Julie Obomsawin, qui dédie son travail justement à la promotion des cultures autochtones dans le cinéma. Donc voilà, je vous invite à aller voir le film parce qu'en plus, j'aurai la chance moi de pouvoir les rencontrer tout à l'heure et comme ça, on pourra en reparler plus demain dans cette émission. Merci beaucoup à
Merci.
Tous les deux, Micheline Langteau,
Merci
Daniel
infiniment.
Racine, et à très bientôt.
Midi et des poussières.
Midi et des poussières. Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Bartas.
Et oui, il est toujours midi et des poussières et vous êtes bien sûr Radio Bartas. On s'éloigne du Québec maintenant pour aller faire un petit tour en Hongrie où il y a eu une sacrée nouvelle dimanche soir, celle de la fin d'une ère, l'ère de Viktor Orban qui était au pouvoir depuis 16 ans. Les élections législatives qui avaient lieu dimanche ont donné une majorité absolue de sièges au candidat conservateur pro-européen Peter Magyar qui devient le nouveau Premier ministre de la Hongrie. Le taux de participation a battu des records, 80% des électeurs sont allés voter et à l'annonce des résultats, ils sont des dizaines de milliers à être sortis dans les rues de Budapest pour célébrer la victoire, scandant des slogans pro-européens et anti-russes, des scènes de liesse jusque dans le métro, des chants, et je me suis dit que c'était une bonne occasion pour écouter un peu de musique hongroise sur Radio Bartas. D'ailleurs, juste avant le scrutin, vendredi 10 avril, une cinquantaine d'artistes avaient organisé un concert gratuit Place des Héros à Budapest pour appeler à la chute d'Orban, pour encourager les électeurs, notamment les jeunes, à aller voter un concert pour la fin du système. Et sur scène, il y avait Azaria, qui est la pop star hongroise, si vous ne le saviez pas, une pop star de 24 ans qui défie Viktor Orban depuis des années déjà avec des textes très engagés. Et donc, le 10 avril, devant plusieurs dizaines de milliers de personnes, il a entonné un titre inédit, Utema, le morceau finit avec ces mots « Que les choses soient différentes, oh qu'elles soient différentes s'il le faut, mon frère, que ce soit fini s'il le faut, nous sommes vraiment aux portes d'un monde nouveau, là où le peuple est uni, même si les opinions divergent. » On l'écoute tout de suite sur Radio Bartas.
« nem hogy lesz jobb egy nap, nem félek én. Hiszen a döntésem terhe, a súly az csak rajtam áll. Ha ide rajtunk áll, de rajtunk áll, az csak, hogy melyik mederbe sodor ez az élet. De tudom, otthon amúgyanúgy vár.
Köszönöm mindenkinek, aki eljött ma este!
Na de nem panaszkodok többet, mert eljött a péntek. Így egy picike pillanatig feledem, hogy otthon mi vár rá. Mindenki maga alatt, te menti gondja baját, de testvér bárhol jár, szemlékezz rá, hogy otthonod ugyanúgy vár rá. Annyi baj van, azt hazudják, hogy minden rendben, embertársak ott lenn a mélyben, kezedet nyújtod, vagy félre lépsz talán. Csak megteheted, ne hidd azt, hogy nem teheted. Belépsz a kapon, amúgy a teltemetet. Reformálni kell ahhoz, hogy penge legyen, hogy a suli meg a kórház az rendben legyen. Hú, értsd meg, tanuld meg, hogy ne ítéld el, az ki más gondol, az a dolgunk, hogy várra szépítünk, nem marad rombolunk. Hogy nézd meg, többé abban, aki átver, és az udó. Hát elmondom se, hogy erre nincs bocsánat. Szimpul, szimp most szem lesz, mint a gúlya télen elszámol. Hazatér hozzá. Szimp lesz, mint a gúlya télen. Amara a messzel jár, mert tudod, nagy ez a föld, ahol van sírulás. Hát legyen végre, végre, legyen úgy, legyen úgy, ahogy a kör.
Gyere vele, bocsó!
Midi et des poussières.
Et oui, toujours midi et des poussières sur Radio Bartas en ce mardi 14 avril, mardi jour de ta chronique, Max. Salut Max.
Salut.
Tu es revenu en studio. On commence tout de suite avec le générique pour pas oublier. La minute de masque. Un morceau de musique raconté par Max en une minute, enfin un peu plus.
C'est étonnant, non ?
Alors Max, toi t'avais déjà écouté de la musique hongroise ?
Mais bien sûr.
Ouais.
Enfin, très peu quand même.
Moi, j'en avais jamais écouté, je crois, c'était une première. Alors, on va parler musique ensemble, hein, comme chaque mardi, mais avant ça, il faut quand même annoncer une grande nouvelle sur Radio Bartas. Vous êtes champion de fléchette de Lozère en poule avec le club Florac Trop Puissant.
Voilà, enfin, le club, c'est le nom de notre équipe, oui.
De votre équipe.
Voilà, le championnat s'est fini la semaine dernière et on a gagné le dernier match. On a été deuxième quasiment toute la saison et on est passé devant au dernier match.
Mais voilà. Bravo, mais heureusement que je suis venue au volet rouge de manière complètement fortuite ce week-end, sinon je l'aurais jamais appris, sinon.
Mais peut-être, oui, c'est assez confidentiel quand même.
Mais il faut envoyer des communiqués de presse quand il se passe ce genre de choses.
Alors si on parle de fléchettes, il y a quand même une grande nouvelle au niveau lausérien à ce niveau-là. C'est qu'on a quelqu'un du département qui, il y a 10 jours de ça, a gagné la Coupe de France en fléchette traditionnelle. Et du coup, il intègre la Team France pour la saison prochaine. Et ça, par contre, ça, c'est une grosse perf.
Mais bravo, mais alors donne-nous son nom, s'il te plaît.
Alors, c'est Sébastien Castagnier, que les gens qui s'intéressent aux fléchettes connaissent, puisque quand même, il est très bon depuis longtemps. Mais là, il s'entraîne un peu plus que d'habitude depuis une paire d'années. Et là, il commence vraiment à performer. Et là, c'était vraiment un grand résultat pour lui.
Mais lui, il n'est pas dans votre équipe.
Non, il ne joue pas à notre niveau. On le fréquente depuis longtemps, mais non, il ne joue pas avec nous.
Et donc là, vous êtes champion de Lozère. Et qu'est-ce qui se passe après? C'est quand le prochain championnat?
Eh bien, c'est la fin du championnat équipe départementale. Et par contre, notre victoire là, nous qualifie pour les grandes finales France au mois de juin à Vannes.
Au mois de juin à Vannes, donc vous allez partir en équipe
pour
courir. Mmh. Et ben, tu nous tiendras informés du résultat.
Avec plaisir.
S'il te plaît.
Enfin, ça dépend.
Ça dépend du résultat.
Mais bon, on pourra en parler quand même.
On croisera les doigts pour vous. Mmh. Et musicalement parlant, donc aujourd'hui, tu nous proposes d'écouter quoi, Max?
Alors, un morceau de Taxi Girl, qui est quand même un groupe assez particulier, enfin, pour une époque bien particulière aussi.
Les années 80 toujours.
Ah, bah, voilà.
On n'en sort plus, hein, on s'en sort pas.
Non, mais il y avait tellement de bonnes choses aussi à écouter à ce moment-là. Enfin, c'est un groupe particulier parce qu'il n'a pas fait beaucoup d'albums, enfin, en tant que Taxi Girl, il n'en a fait qu'un, je crois. Après, différentes versions, et après, le groupe a splitté assez vite, et par contre, le chanteur, lui, a une carrière bien plus fournie.
Le chanteur, c'est Daniel Darc.
Voilà, tout à fait.
Chanteur et parolier.
Enfin, entre autres, parce qu'il a fait, après, il a fait beaucoup de mise en musique d'autres textes que les siens. Mais voilà, ils avaient un son un peu particulier, même s'ils passaient pour un punk. C'était un peu new wave, comme on disait à l'époque.
Ouais, new wave, cold wave.
Voilà. Ouais. Mais il a eu vraiment une voix à part, un son à part. Et donc voilà, moi j'ai connu ça quand j'étais au lycée. Et ça m'a beaucoup plu, notamment, par exemple, il portait très bien le Perfecto. Ah.
Du coup, tu t'es acheté le même
Le même nom en plus grand, je pense.
Et donc, le titre que tu nous proposes d'écouter, c'est Jardin Chinois, donc de Taxi Girl, et c'est sur leur album le plus connu qui s'appelle Chercher le Garçon.
Enfin, c'est pas le nom de l'album, Chercher le Garçon, c'est...
Si, c'est le nom de l'album. Attends, vas-y, dis-moi.
Non, c'est un maxi, ça. C'est le premier maxi. Mais Chercher le garçon, c'est le morceau le plus connu d'eux. Et donc, je voulais pas forcément mettre le plus connu, mais voilà, un autre.
Ok, mais je sans vouloir trop te contredire, hein, je crois que l'album, après, qui est sorti en 80, il portait le nom du morceau Chercher le garçon. Enfin bon, là, c'est Jardin Chinois qu'on écoute tout de suite sur Radio Barthes. Des jardins chinois de Taxi Girl sur Radio Bartas, le choix de Max. Et c'est marrant parce que la musique, c'est un peu une petite balade comme ça avec les petits synthés rebondissants, guillerets, mais les paroles, elles sont terribles.
Ah, elles sont, oui, terribles. Mais c'était un peu ça son truc à lui, d'être terrible. C'était un peu l'enfant terrible.
Daniel Dark, hyper dark en fait.
Ouais.
C'est vraiment terrible quoi. Il tue une femme dans son jardin chinois quoi. Ok, alors, on a travaillé avec Max pendant qu'on écoutait le morceau, donc on est allé sur Wikipédia comme d'habitude.
Oh. Non, parle-moi.
Non,
toi.
Moi. Non, mais c'était pour nous départager. Ah, donc, ouais. Voilà, il faut quand même admettre qu'on avait un peu raison tous les deux, c'est-à-dire qu'il y a eu un premier album de Taxi Girl qui s'est appelé Chercher le garçon, qui a regroupé en fait les sept morceaux qui étaient sortis juste avant, donc c'est plus comme un peu un mini-album, quoi. Et après, le vrai, vrai album officiel, premier album, c'est Seppuku. C'est d'ailleurs leur seul et unique album.
Voilà.
Donc, ok, Max, t'avais raison. De toute façon, c'est sûr. Tu les avais vus en concert ?
Non. Mais par contre, l'anecdote privée, c'est que, par exemple, Daniel Dark, avant son décès, il venait tous les ans en vacances au Pont de Montvert.
C'est vrai ?
Incognito, ouais. Enfin, moi, je l'ai jamais rencontré, mais en fait, c'est parce qu'il était avec une copine à moi sur les dernières années de sa vie. Et en fait, j'avais appris ça comme ça.
Mais t'aurais pu le rencontrer, du coup.
Ben, il devait d'ailleurs m'offrir son dernier album.
Il n'a pas eu le temps.
Non.
Mince. Et ben, en tout cas, merci beaucoup pour cette découverte, pour ma part, redécouverte peut-être, pour celles et ceux d'entre vous qui connaissaient. Merci, Max.
Mais avec plaisir.
On se revoit la semaine prochaine. Et voilà, donc c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Bonne fin de journée à toutes et à tous sur le 107.
Sait-on ce qui se cache derrière cette petite phrase que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée ? Quelle heure est-il ?
Au quatrième top, il sera exactement...
midi ? Et des poussières. Midi et des poussières.
Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Bartas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus une heure.